Ma tâche n'est pas très facile en ce début d'après-midi parce que j'interviens après des conférences très intéressantes de ce matin et tout particulièrement l'exposé très brillant de M. l'abbé Simoulin. J'interviens juste avant un évêque, ce qui n'est pas rien. Et en plus, en sortant de table, car même s'il s'agissait d'un restaurant asiatique, nous avons tout de même les uns et les autres mangé. Et donc j'ai la difficulté de retenir votre attention pendant 50 minutes. Et j'avouerai d'emblée, pour m'attirer votre indulgence, que je ne suis pas théologien, pas même philosophe, et donc d'emblée, je confesse et je reconnais toute hérésie que vous pourriez découvrir dans mon propos, et je la retire par avance. Et pour être plus sérieux, les seuls titres que j'ai peut-être à m'exprimer devant vous, c'est ceux qui ont été évoqués à l'instant par M. l'abbé Duchalard. Je me suis intéressé pendant de nombreuses années, je m'intéresse encore à la doctrine sociale de l'Église, et en particulier dans l'ouvrage qu'il a mentionné, j'ai tenté de répondre à une question que je me posais depuis des années. Comment était-il possible que le pape Pie X ait condamné le Sillon de Marc Sangnier, qui était un mouvement démocrate chrétien très marqué à gauche, et qu'une quinzaine d'années plus tard, le pape Pie XI condamne l'Action française, alors même que l'Action française disait en gros le contraire du Sillon? Y a-t-il eu une évolution dans la doctrine sociale de l'Église? Et la deuxième raison, je crois, qui a poussé l'abbé Duchalard à m'inviter, il l'a mentionné également, c'est mon engagement politique, que je ne mentionnerai pas en tant que tel, si ce n'est pour dire que cet engagement politique m'a amené à réfléchir de manière concrète, cette fois-ci, sur le régime démocratique que j'ai vu fonctionner et que je vois fonctionner encore au quotidien. Et sans doute, cette expérience personnelle m'a appris peut-être encore davantage que toutes mes études. En tout cas, elle m'a amené à comprendre plus profondément un certain nombre des choses que j'avais pu lire par ailleurs. Et précisément, c'est de ça dont je voudrais vous entretenir, de la démocratie, parce que ce n'est pas en 50 minutes qu'on peut faire un exposé sur l'évolution éventuelle de la démocratie sociale, de la démocratie et de la doctrine sociale de l'Église. Il faut, je crois, s'attacher à l'essentiel. Et l'essentiel, me semble-t-il, c'est la question de l'attitude que l'Église a eue vis-à-vis de la démocratie au cours du siècle qui s'achève. Et il me semble que pour comprendre l'attitude de l'Église, pour arriver à aller au cœur du problème, il faut commencer par bien saisir que ce mot de démocratie, d'abord, recouvre des réalités très différentes. Et il faut au moins retenir deux qui me paraissent essentielles ici pour bien comprendre les choses. Le premier, c'est le sens classique, traditionnel, étymologique, démos, kratos, pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le régime politique dans lequel le peuple détient le pouvoir. Alors, il faudrait nuancer beaucoup, préciser ce qu'est le peuple, préciser quel est le pouvoir du peuple, mais pour l'instant, on va en rester là. On sait bien que cette définition, même si elle est utilisée dans les universités, ne correspond pas à la réalité de la démocratie aujourd'hui. Parce que pour nos contemporains, dans l'immense majorité des cas, la démocratie, ce n'est pas un régime politique parmi d'autres. C'est le régime politique. La question ne se pose pas, j'y reviendrai, en termes de choix entre la démocratie, l'aristocratie, c'est un peu désuet, la monarchie. La question aujourd'hui se pose d'un choix entre le bien et le mal. Où on est démocrate, et on est bon, on est juste, on peut tout se permettre. Où on n'est pas démocrate, et tout vous est interdit. On est donc là dans une logique qui est complètement différente, et qui, à la vérité, est une logique religieuse. Et de ce point de vue, Charles Maurras, qui était cité ce matin, au moins dans le texte qui nous a été remis, Charles Maurras avait utilisé une expression très juste. Il avait parlé de démocratie religieuse. Et je crois que si l'on veut comprendre l'attitude de l'Église, éventuellement son évolution au cours du XXe siècle à l'égard du phénomène démocratique, il faut distinguer d'une part l'attitude de l'Église à l'égard de la démocratie politique et l'attitude de l'Église à l'égard de la démocratie religieuse. Et on verra que sur le premier point, les changements existent, mais ils ne sont pas gigantesques. En revanche, sur le second point, il y a des changements beaucoup plus inquiétants, parce que dès lors qu'on parle de démocratie religieuse, on parle donc d'une religion, et par conséquent, comme ça nous était expliqué en fin de matinée, il n'y a aucune compromission possible pour l'Église vis-à-vis d'une autre religion. Premier aspect, donc, l'Église et la démocratie politique. Question préalable, en quoi l'Église a-t-elle à s'occuper de la démocratie politique? En quoi l'Église a-t-elle à s'occuper? Pourquoi l'Église devrait-elle s'occuper de la vie politique? Comme le rappelait le pape Léon XIII au début de son encyclique, consacrée d'ailleurs à des questions politiques, Immortale Dei, le but de l'Église, c'est le salut des âmes. L'objet de l'Église, c'est le salut des âmes. Mais il me semble que l'Église, enfin il me semble, pas une idée personnelle. L'Église, comme son divin époux, elle a cette double mission, comme il est rappelé au début des Actes des Apôtres, facere et docere. L'Église enseigne, l'Église sanctifie, mais aussi elle agit dans le monde. Et toute l'histoire de l'Église est jalonnée de ces bénéfices que les sociétés ont tirés de la présence de l'Église. On pourrait même dire que s'il y a eu des civilisations, je dis bien des civilisations, en dehors des pays chrétiens, la civilisation ne se trouve que dans les pays chrétiens, en fin de compte. Et s'il y a eu des progrès de la civilisation, c'est bien l'Église qu'on le doit. Ça n'est pas la mission première. La mission première, c'est la recherche du royaume de Dieu. Mais, grâce à l'Église, on a tout le reste par surcroît. Et en particulier, ceci amène l'Église à poser un regard sur les sociétés, à donner des conseils aux hommes, et plus parfois que des conseils, des injonctions aux hommes de son temps. Eh bien, qu'est-ce que l'Église nous dit sur la démocratie? Je crois qu'elle nous dit essentiellement trois choses, et d'une manière assez continue tout au long de notre période, c'est-à-dire en gros au cours du siècle qui s'achève. D'abord, la démocratie est une forme de gouvernement légitime. Deuxièmement, elle n'a pas, l'Église, à exprimer de préférence pour la démocratie. On verra que c'est un point important aujourd'hui. Et puis, troisièmement, si la démocratie est acceptée, encore faut-il qu'elle respecte un certain nombre de règles, qu'elle se conforme à un certain nombre de principes. Premier point, la légitimité de la démocratie. C'est là un enseignement constant des papes, surtout depuis Léon XIII, parce qu'il a beaucoup écrit sur la doctrine sociale de l'Église. On peut dire que finalement, c'est avec lui que naît l'actuelle doctrine sociale de l'Église. On pourrait trouver de multiples citations, j'en ai plusieurs sous les yeux. Par exemple, dans Deuteronome Illud, rien n'empêche d'approuver le gouvernement de plusieurs, c'est-à-dire le gouvernement démocratique, ou encore dans une encyclique que nous connaissons bien en France, puisqu'elle concernait la France, au milieu des sollicitudes, 1892, c'est la fameuse encyclique dite du ralliement. Eh bien, alors même que le pape enjoint aux catholiques français d'accepter la République, il note, en vérité, chacune des formes de régime est bonne. Le successeur de Léon XIII, le pape Pidis, Saint Pidis, lorsqu'il condamne le sillon dont je parlais tout à l'heure, qui représente la démocratie chrétienne sous sa forme la plus révolutionnaire, sans doute. Alors même qu'il condamne cette démocratie dévoyée, le pape affirme, en reprenant les affirmations de Léon XIII, que toutes les formes de pouvoir sont en elles-mêmes légitimes. Et inversement, d'ailleurs, quand Pie XI, en 1926, va condamner l'action française, il va rappeler ce même principe, je condamne l'action française, mais non pas parce qu'elle est favorable à la monarchie, mais pour d'autres raisons. Donc l'Église tient toujours soigneusement à part la question du régime politique. Le régime politique, en soi n'est pas condamnable. Que le peuple ait le pouvoir, qu'un seul ait le pouvoir, que le pouvoir soit conféré au meilleur dans la société, tout ceci n'est pas contradictoire aux valeurs de l'Évangile et aux valeurs de l'Église. J'ajoute que même dans les textes les plus contemporains, et en particulier dans le Concile, Gaudium et Spes numéro 42, on peut lire « L'Église n'est liée à aucun système politique ». Affirmation que l'on retrouvera au numéro 1901 du catéchisme actuel. Il y a donc une continuité doctrinale incontestable. Cette continuité doctrinale, d'ailleurs, elle ne remonte pas à Léon XIII. J'ai sous les yeux, mais le temps est court, je ne le lirai pas, sauf si quelqu'un souhaitait voir le texte, je tiens à sa disposition. Même le pape Pie VI, dans le bref Quod aliquandum, dans lequel il condamne la constitution civile du clergé, eh bien, le pape Pie VI dit en substance que son jugement porte sur la constitution civile du clergé, mais pas du tout sur les réformes civiles, dit-il. Je crois qu'il faut l'entendre au sens politique du terme, pas du tout sur les réformes politiques, donc, qui ont été introduites en France. Tout ça pour bien montrer que l'Église s'interdit de condamner quelque forme de système politique que ce soit, dès lors, bien sûr, on le verra tout à l'heure, qu'un certain nombre de règles sont respectées. Mais ça n'est pas en soi que telle ou telle forme politique est condamnable. Cet enseignement n'est pas nouveau. Je ne pense pas qu'on en retrouverait l'origine dès les débuts de l'Église, parce que à ses débuts, l'Église n'a pas été confrontée au phénomène démocratique, en tout cas, semble-t-il, ne s'en est pas préoccupée, pour autant que j'ai pu voir. Et dans la Révélation, en particulier, il n'y a rien sur la démocratie. On pourrait d'ailleurs méditer, je le dis en ouvrant une parenthèse, on pourrait méditer sur l'épisode de la condamnation de notre Seigneur. Et c'est vrai que dans une première analyse, on pourrait dire qu'il a été condamné par le peuple, puisque c'est le peuple qui crie Barabbas. Mais en fait, on voit que dans cette affaire-là, tous les régimes politiques sont compromis. Le régime monarchique, parce que Pilate le condamne. L'oligarchie, parce qu'il y a derrière les grands prêtres qui finalement intoxiquent le peuple. Et puis le peuple qui choisit. Finalement, d'ailleurs, c'est une parabole qui est très actuelle, mais j'aurai l'occasion... c'est plutôt un épisode, pas une parabole. Un épisode qui est très actuel, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, rien dans la Révélation. En fait, c'est sans doute... Je répète que je ne suis pas philosophe. Mais c'est sans doute saint Thomas qui, le premier, va se poser cette question de la valeur, de la légitimité des régimes. Et finalement, en bon disciple d'Aristote, ce qu'il est, il n'est pas seulement cela, mais il est aussi cela, eh bien, il reprend la triple distinction bien connue. Et on peut dire qu'à partir de saint Thomas, ça va devenir, et là je cite d'ailleurs le dictionnaire de théologie catholique, ça va devenir l'enseignement commun des théologiens, qu'il appartient au peuple, au pluriel, comme une sorte de droit naturel de choisir leur forme politique. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point parce que on va voir qu'il y a eu, pour le moins, des inflexions dans ce domaine. A priori, tous les régimes politiques sont légitimes. Il n'y a pas de régime politique qui, en soi, soit illégitime. Le fait de conférer l'autorité à un, à plusieurs, par hypothèse des meilleurs, ou à l'ensemble du peuple, ce n'est dans aucun cas illégitime. Notons au passage que ce que nous disons ici et qui est vrai dans l'ordre politique n'est absolument pas vrai dans l'ordre de l'Église, concernant l'Église catholique, parce que là, son divin fondateur a prévu, au contraire, une constitution particulière, parce que l'enjeu était infiniment plus important. Il s'agissait, je le disais en commençant, du salut des âmes. Toutes les formes de régime sont légitimes, en particulier la démocratie. Cela dit, on peut essayer de préciser un peu et on peut s'interroger si telle forme de régime n'est pas meilleure que telle autre. Et de ce point de vue, d'ailleurs, saint Thomas s'est posé la question et a répondu d'ailleurs d'une façon qui, je ne suis pas un grand homiste, s'en faute beaucoup, me semble quand même très nuancée. Puisque d'une part, il dit que la monarchie est le régime le meilleur parce que ce qui caractérise la monarchie, c'est l'unité de direction. Et donc, a priori, il est préférable qu'un seul décide plutôt qu'il y ait des tiraillements. Et dit saint Thomas, de ce point de vue, la démocratie est le pire des régimes, parce que justement, c'est un régime dans lequel il y a beaucoup de tiraillements, beaucoup de factions, beaucoup d'oppositions. Mais il ajoute une deuxième considération, c'est que lorsque ces formes de régime, nous nous sommes placés dans l'hypothèse d'un régime qui fonctionne bien. Mais lorsque ces différents régimes dégénèrent, ce qui se produit assez souvent, et sans doute est-ce le cas aujourd'hui pour la démocratie, alors la situation est inverse. À savoir que le meilleur des régimes, la monarchie, lorsqu'il dégénère en tyrannie, devient le pire. Mais inversement, la démocratie, lorsqu'elle dégénère en démagogie, et ça encore c'est très actuel, est peut-être le moins mauvais des mauvais régimes. Donc on voit que la position de saint Thomas d'Aquin est nuancée, et d'ailleurs on sait qu'il est favorable à un régime mixte. Et c'est vrai que chacun souhaiterait un régime qui aurait tous les avantages des différents régimes et aucun des inconvénients des différents régimes. Le pape Léon XIII, en bon thomiste, lui, va reprendre toutes ses théories dans ses encycliques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et notamment il évoque plusieurs fois cette idée que, je le cite, encore une fois c'est l'encyclique au milieu des sollicitudes, en se renfermant dans des abstractions, on arriverait à définir quelle est la meilleure des formes de régime politique. Et il ajoute, dans cet ordre d'idées spéculatif, les catholiques, comme tout citoyen, ont pleine liberté de préférer une forme à une autre. Et c'est à la fois le discours d'ailleurs de Pie X au Sillon, vous êtes libre d'être démocrate, c'est le discours de Pie XI à l'Action française, vous êtes libre d'être monarchiste. Mais là, nous sommes dans l'ordre spéculatif, dans la réflexion générale sur les régimes politiques. Chaque catholique peut apprécier plus ou moins, dans l'abstrait, telle ou telle forme de régime. Mais quand on passe de l'abstrait au concret, les choses changent. Et changent notamment parce que il est un principe qu'on trouve mis en œuvre, lui, depuis les origines de l'Église, c'est la soumission aux pouvoirs établis. Tel est le cas dans l'épître aux Romains, où l'apôtre Paul enjoint à ses fidèles, aux fidèles catholiques, de respecter, d'être soumis au pouvoir. Or, le pouvoir, c'est le pouvoir d'un empereur païen et d'un empereur persécuteur. On lit aussi dans saint Augustin cette allusion aux soldats chrétiens à l'époque de l'empereur Julien. Alors, cet empereur Julien, saint Augustin rappelle qu'il est infidèle, apostat, pervers, idolâtre. C'est la totale. Et pourtant, dit-il, les soldats chrétiens lui étaient soumis. Chaque fois, du moins, qu'il ne leur commandait pas quelque chose de contraire à la révélation et au droit naturel, ils étaient soumis à ce mauvais empereur. Et au fond, c'est toute la position de Léon XIII, position qui a souvent été mal comprise et parfois condamnée, y compris par des gens qui nous sont proches. Lorsque Léon XIII demande aux catholiques de France d'entrer dans la République, il ne fait qu'appliquer finalement cette règle, à savoir que quand un pouvoir est en place, eh bien, il a une légitimité qui oblige tous les sujets à lui obéir. Dès lors, bien entendu, que est respectée la maxime, mais j'y reviendrai, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et le pape Léon XIII est parfaitement conscient de la perversité de la République française. Alors peut-être que ce rappel en termes de gouvernement n'est pas opportun, peut-être que c'est une erreur politique, et je ne suis pas loin de le penser. Et Léon XIII lui-même, d'ailleurs, à la fin de sa vie, s'en est rendu compte, semble-t-il. Il aurait peut-être mieux fait de ne pas rappeler ce précepte à ce moment-là. Mais nul ne peut contester que ce précepte soit dans la logique catholique depuis les origines. Ceci n'empêche l'Église, ça c'est très important aussi aujourd'hui, ceci n'empêche l'Église de critiquer les différents pouvoirs en place. C'est pas parce qu'on enjoint au sujet d'obéir aux autorités constituées qu'on leur interdit tout droit de critique et que l'Église a fortiori s'interdit tout droit de critique. Ça aussi, ça nous renvoie à l'exposé de l'abbé Simoulin ce matin. Par exemple, le pape Pie IX ne se privait pas. On sait que ce pape était intrépide et on lui prête souvent cette formule « suffrage universel, mensonge universel ». À la vérité, il s'adressait à des pèlerins français en 1874 et disait très exactement « Le suffrage universel est une plaie qui mériterait, à juste titre, d'être appelée mensonge universel. » Alors on nous dira « C'était Pie IX ». Mais même Pie XI, qui passe au moins au début de son pontificat pour être un pape plutôt ami des démocraties. Voilà ce qu'il dit dans sa première encyclique, Ubi Arcano, en 1922. Il évoque les modernes régimes représentatifs, et dans ces régimes, dit-il, le peuple prend une part plus large à la direction de l'État. Alors, si on était dans le Concile Vatican II, on ajouterait, c'est très bien, c'est conforme à la dignité humaine. Mais voilà ce que dit Pie XI. Il est clair que ces formes de régime se prêtent plus aisément que les autres au jeu déloyal des factions. Donc, c'est une critique de la démocratie. En soi, le régime est légitime. Également, les catholiques doivent obéir aux pouvoirs en place, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent être aveugles et qu'ils doivent être naïfs. Saint Thomas déjà avait dit que la démocratie exigeait des citoyens plus de vertus que les autres régimes. Et là encore, on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui nous sommes plus vertueux au point de pouvoir instaurer une authentique et bonne démocratie. Mais ceci nous amène au troisième point, les conditions requises pour que la démocratie soit acceptable. Ces conditions, elles sont de deux ordres. D'une part, il y a des conditions qui sont exigées de tous les régimes, démocratie, aristocratie ou monarchie. Tous les régimes politiques doivent respecter certaines conditions, mais il y a des conditions spécifiques à la démocratie. Pour l'ensemble des régimes, il y a deux conditions qui sont bien connues. L'une tient à l'origine du pouvoir et l'autre à sa finalité. L'origine du pouvoir, c'est Dieu. Non est potestas nisi ad Deo, disait déjà l'apôtre. Et ceci est vrai pour tous les régimes. Et c'est vrai en particulier que les démocrates chrétiens ont tendance à considérer que ce non est potestas nisi ad Deo s'arrête là où commence la démocratie. Mais bien au contraire, faut-il leur répondre. Dans son célèbre radio-message de 1944, Noël 1944, le pape Pie XII disait très exactement « Aucune forme d'État ne saurait se dispenser d'avoir égard à cette intime et indissoluble connexion. » Connexion entre l'origine divine, l'exercice du pouvoir. Et il ajoute, moins que tout autre, la démocratie. Ça, c'est très important. Ça veut dire que, non seulement la démocratie ne peut pas se dispenser de reconnaître l'origine divine du pouvoir, mais que plus que les autres pouvoirs, plus que les autres formes de pouvoir, elle doit insister sur l'origine divine du pouvoir qui est exercé. Précisément, d'ailleurs, c'est facile à comprendre, parce que dans la démocratie, on a tendance à voir, on a tendance à imaginer que c'est le peuple qui donne le pouvoir, qui confère le pouvoir. Alors, le peuple ne peut pas conférer un pouvoir qui, bien évidemment, ne lui appartient pas. Donc, première condition, générale à tous les régimes, mais plus spécifique, plus particulièrement nécessaire en démocratie, la reconnaissance de l'origine divine du pouvoir. Deuxième condition, la finalité du pouvoir. Je passerai peut-être plus rapidement sur ce point, parce qu'il a été traité hier par le professeur Sadon Paldès. Le pouvoir est au service du bien commun. Et on nous a très bien montré hier comment ce bien commun, c'est aussi un bien propre pour chaque personne. Et donc, le pouvoir doit assurer le bien commun. C'est vrai pour tous les pouvoirs, et en particulier pour le pouvoir démocratique. Et il doit le faire en respectant la justice. Et ça aussi, c'est très important dans la démocratie moderne, parce que la justice, on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de cet exposé, mais la justice, c'est le respect du droit naturel et du droit divin. C'est pas ce que les peuples, à un moment donné, définissent comme la justice. Donc là encore, on voit que la démocratie, si elle veut être acceptée par l'Église, doit respecter ces règles essentielles qui sont posées, enseignées par l'Église. On a d'ailleurs à ce sujet un débat fort actuel et qui nous permet de mettre le doigt sur cette question de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, de ce qui fait qu'un régime est acceptable ou qu'il n'est plus acceptable. C'est la question de l'avortement. Je lis l'encyclique du pape actuel, Evangelium Vitae, numéro 20. Revendiquer le droit à l'avortement, à l'infanticide, à l'euthanasie, et le reconnaître légalement, cela revient à attribuer à la liberté humaine un sens pervers et injuste. Mais c'est la mort de la vraie liberté. Il y a une petite parenthèse au milieu, quelques mots que j'ai sautés, mais je reviendrai sur ce point ultérieurement. Le pape dit, c'est pervers et injuste, celui d'un pouvoir absolu sur les autres et contre les autres. Ce qui est un peu ennuyeux dans cette formulation, c'est que on a l'impression que l'avortement, l'infanticide, l'euthanasie sont condamnables, simplement parce que l'homme prend un pouvoir sur un autre homme. Alors que dans une perspective catholique, il aurait peut-être été plus clair de dire « c'est interdit par les commandements de Dieu ». Mais c'est toujours cette volonté, mais j'aurai l'occasion de développer ce point à la fin de l'exposé, c'est toujours cette volonté d'essayer de concilier la pensée de l'Église et la pensée de la démocratie triomphante. Donc, des conditions propres à tous les régimes, quelle que soit leur forme, le pouvoir vient de Dieu, le pouvoir est au service du bien commun. Mais pour ce qui est de la démocratie, il y a des conditions particulières. Et ces conditions particulières ont été rappelées et exprimées très clairement par le pape Pie XII dans ce fameux radiomessage que j'évoquais tout à l'heure de Noël 1944. Il faut rappeler les circonstances de ce radiomessage. Le pape voit bien que la démocratie est en train de l'emporter partout. Ça a été ce qu'on a appelé les croisades des démocraties. Les régimes autoritaires et totalitaires sont vaincus, sauf le communisme, excusez du peu, mais à l'époque il est abusivement assimilé à la démocratie. Et donc le pape se rend bien compte qu'il ne peut rien faire contre ce régime qui déferle, et il se comporte comme l'Église s'est toujours comportée, c'est-à-dire que par rapport à l'égard de l'esclavage, par exemple, l'Église n'a pas commencé à faire des diatribes contre l'esclavage, mais elle a essayé de modifier l'état d'esprit des gens, essayé de convertir les maîtres, et c'est finalement en convertissant les maîtres que, progressivement, on a libéré les esclaves. Et en quelque sorte, le pape veut faire pareil. On sait aujourd'hui qu'il n'a pas réussi, et lui-même s'en est rendu compte. Mais il essaye de fixer les règles qui permettraient d'avoir une démocratie vraiment acceptable, et même bénéfique. Au fond, la pensée du pape est extrêmement simple. Les conditions pour qu'il y ait une démocratie, c'est qu'il y ait un démos, qu'il y ait un peuple et qu'il y ait un kratos, qu'il y ait un pouvoir. Hier, on évoquait la distinction que le pape faisait très justement entre le peuple et la masse. La distinction est lumineuse. Le peuple est capable d'exprimer une opinion. Le peuple, en soi, par nature, est actif, alors que la masse est amorphe. Le propre de la masse, c'est qu'elle est toujours activée de l'extérieur. Ce verre, je peux le déplacer, il ne se déplacera pas tout seul. Il n'a en lui-même aucun principe qui lui permette de dire ceci ou de faire cela. Et le pape, d'ailleurs, dit de fort belle manière ce que un homme politique français célèbre disait de manière cynique à la fin de sa carrière, et Dieu sait qu'il s'y connaissait, Clémenceau. Clémenceau définissait le peuple comme une masse flottante. En réalité, ce qu'on entend par démocratie dans le langage courant, c'est l'accroissement, et là il donne un certain nombre d'adjectifs qu'on pourrait discuter, l'accroissement fatal, profitable, mais incohérent, des minorités gouvernantes. Autrement dit, on parle de démocratie, à la réalité, en réalité, nous avons une oligarchie ou des oligarchies, des minorités qui effectivement gouvernent. Derrière le paravent du peuple, il y a la main ou les mains cachées qui dirigent efficacement. Et aujourd'hui, nous connaissons bien ces oligarchies, et en particulier, nous connaissons bien leur premier instrument, à savoir les médias. On a dit à juste titre que dans les pays occidentaux, on vivait dans un régime médiacratique. Ce sont les médias qui dirigent, avec un certain nombre de techniques que M. Delassus connaît bien, et dont les principales s'appellent simplification. On ne demande pas aux gens de réfléchir, puisqu'on simplifie les choses, le bien et le mal. Vous faites ce que vous voulez, mais ça c'est très mal. Évidemment, les gens vous disent le contraire. On a eu un exemple d'ailleurs pas très éloigné, dans la guerre du Kosovo. Au début, on demande aux Français, êtes-vous pour l'intervention au Kosovo ? 80 ou 90% disent non. Et puis pendant des jours et des jours, on montre à la télévision des réfugiés qui arrivent, qui sont d'ailleurs assez curieusement, certains l'ont noté, qui ne sont jamais blessés, qui ont l'air en assez bonne santé d'ailleurs, mais on explique que derrière il y a un régime terrible qui fait de l'épuration ethnique. Et bien au bout de quelques semaines, la majorité des Français veulent l'intervention au Kosovo. Voilà un exemple de simplification. Également un exemple de mensonge. Ça, c'est aussi un des moyens d'agir sur les foules. On ment. On présente le vrai comme faux, ou inversement, ou le mal comme bien, ou inversement. Et puis surtout, on joue sur la sensibilité. Et c'est d'ailleurs, je le signale en passant, à la fois la force et la faiblesse du système actuel. C'est que la sensibilité provoque des réactions très vives et immédiates, mais sans lendemain. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous nous battons contre un colosse au pied d'argile. Il y a un colosse, effectivement, en face, mais un pied, c'est le mensonge, l'autre, c'est la sensibilité. Et le mensonge, tôt ou tard, sera dissipé par la vérité, et la sensibilité, ça ne tient pas. Parce qu'aujourd'hui, on est sensible à la détresse de tel peuple, et demain, à la détresse de tel autre. Aujourd'hui, on est sensible devant la mort des bébés phoques, demain, espérons qu'on sera sensible devant la mort des bébés tout court. Ça, c'est le moyen, les médias. Et derrière les médias, il y a les oligarchies. La maçonnerie, par exemple, qui a été évoquée souvent ici, et d'autres groupes de pression. Par exemple, on est entre nous. On parle quotidiennement dans les médias du génocide. Il s'agit du génocide juif. On ne parle pratiquement jamais du génocide arménien. Pourquoi ? Parce que, sans vouloir faire de peine à personne et sans vouloir faire preuve d'antisémitisme, parce qu'il y a plus de juifs à la télévision que d'arméniens. C'est pas plus compliqué que cela. Donc on voit bien que la télévision, c'est un moyen formidable, au sens étymologique du terme, de faire l'opinion. Et évidemment, si on fait l'opinion, ça n'est plus le peuple qui a une opinion. Si le peuple n'est pas véritablement informé, si le peuple n'a pas les moyens de réfléchir, si le peuple ne peut pas distinguer le vrai du faux, comment le peuple dirigerait ? Comment serait-on en démocratie ? Et c'est ce que dit Pie XII. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un peuple qui gouverne. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de peuple. Évidemment, il ne gouverne pas. Assez curieusement, d'ailleurs, dans Sanctissimus Annus, au point 94, le pape semble évoquer cette question-là. Dans un monde sans vérité, la liberté perd sa consistance. Et l'homme est soumis à la violence des passions et à des conditionnements apparents ou occultes. C'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc le pape Pie XII avait essayé, je ne dis pas de christianiser la démocratie, ça n'était pas son rôle, mais avait essayé de rappeler à la démocratie quelles étaient les règles qu'elle devait respecter, comme tous les régimes, mais aussi les règles particulières qui concernaient une vraie démocratie. Quelques années plus tard, il se rend compte qu'il n'a pas réussi. On voit dans ses discours qu'il a un certain dépit à l'égard de la démocratie. Pourquoi ? Parce que la démocratie de notre temps n'est pas une forme de régime politique, mais qu'elle est une véritable religion, comme le disait Maurras, la démocratie religieuse. Et j'insiste sur ce point, ne confondez pas la démocratie religieuse et la démocratie chrétienne, encore que la démocratie chrétienne a de multiples sens. Mais dans son meilleur sens, la démocratie, c'est une démocratie qui est conforme aux principes chrétiens. La démocratie religieuse, par essence, elle est la négation du christianisme, puisqu'elle est une autre religion. Une religion, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un ensemble de croyances et de pratiques propres à un groupe déterminé. Je pense que c'est la définition qu'on peut retenir. En tout cas, c'est celle du dictionnaire Robert. Du point de vue sociologique, en tout cas, c'est cela. On notera que le groupe déterminé concernant la démocratie religieuse, c'est aujourd'hui le monde entier. C'est devenu la religion universelle. Nous sommes dans une démocratie universelle, ou du moins, tous les peuples du monde se prétendent démocratiques. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas un peuple dans le monde qui dit « nous ne sommes pas démocrates ». Ils le sont pas, mais en tout cas, ils disent l'être. C'est déjà un triomphe considérable pour la démocratie. Et ça, d'ailleurs, d'un simple point de vue intellectuel, c'est extrêmement affaiblissant. Une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a eu de grands philosophes en Grèce, et notamment dans le domaine de la philosophie politique, c'est que les cités grecques avaient des régimes politiques différents, dans le temps et dans l'espace. Ça changeait tout le temps. Donc les hommes qui observaient la vie de la Grèce, dans ce petit espace, ils voyaient les régimes se succéder les uns aux autres, ils voyaient les avantages des régimes, les inconvénients, et donc ils pouvaient réfléchir sur les régimes politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus officiellement, dans l'idéologie dominante, il n'y a plus que la démocratie et le mal. Donc il n'y a plus de réflexion finalement possible sur la démocratie. Certains s'en réjouissent. Le pape Pie X y était totalement indifférent. Voilà ce qu'il écrit au Sillon. L'avènement de la démocratie universelle n'importe pas à l'action de l'Église dans le monde. En contrepoint, voilà ce que dit Jean-Paul II dans l'Évangile de la vie, numéro 70. Il évoque le consensus presque universel sur la valeur de la démocratie. Il faut considérer cela comme un signe des temps positifs. Donc si on s'interroge sur une évolution, là, elle apparaît de manière manifeste. L'avènement donc d'une démocratie universelle. Cette religion dont je parle et que je vais décrire concerne le monde entier, d'où sa puissance. J'évoquais les pratiques. C'est une des composantes d'une religion au sens sociologique du terme. Ça n'est pas l'objet de mon exposé, mais je crois que c'est intéressant de les évoquer ici rapidement. Par exemple, dans cette démocratie triomphante, on a les actions humanitaires. Je pense en particulier aux concerts que l'on donne contre le racisme ou contre le sida ou pour ceci ou pour cela. Alors évidemment, dans une toute première approche, on peut penser que c'est sympathique. Bon, c'est peut-être pas vraiment la charité telle qu'on nous l'expliquait ce matin, mais a priori, il vaut mieux être contre le sida qu'être pour, quoi. Ça semble plutôt logique. Bon. Mais quand on va un peu plus loin, on se rend compte que ce sont de véritables cérémonies religieuses où il s'agit de glorifier l'homme. Regardez comme on est bon, on chante pour vaincre le sida. Et puis également, c'est une manifestation de l'autonomie vis-à-vis de Dieu. C'est grâce à ma guitare que je vais libérer le monde du sida. Et je n'ai donc pas besoin de Dieu, puisque je me libère du sida en grattant sur ma guitare. Donc on a là véritablement une manifestation d'ordre religieux. Un autre exemple qui vous apparaîtra encore plus évident, c'est toute cette autocritique généralisée, avec sa forme spécifique qui est la repentance. Ou en l'occurrence, on bat sa coulpe sur la poitrine des autres. Je te demande pardon parce que mon père a beaucoup péché. Et donc, moi, je suis vraiment bien, puisque je dénonce mon père. C'est la preuve que si j'avais vécu à cette époque-là, ça vous rappelle peut-être quelque chose, sauf erreur de ma part dans saint Matthieu, chapitre 23. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous dites nos pères ont tué les prophètes, mais en disant cela, vous montrez que vous êtes bien de la même race qu'eux. Et on peut être sûr que ceux qui battent leur coulpe aujourd'hui le plus fort, c'est ceux qui auraient agi le plus comme leur père à cette époque. On a eu en France un exemple assez extraordinaire de pratique religieuse, de la religion démocratique. C'est la cérémonie d'intronisation de François Mitterrand en 1981, lorsqu'il est élu président de la République. Et on pourrait réfléchir longtemps sur cet aspect-là, parce qu'il est très riche en symboles. François Mitterrand va au Panthéon et va déposer une rose sur un certain nombre des grands hommes, des tombes des grands hommes qui s'y trouvent. Sauf erreur de ma part, il y a trois hommes, et sauf erreur de ma part, ils sont tous les trois francs-maçons, d'ailleurs. Mais le Panthéon, c'est une église au départ, Sainte-Geneviève. Une église qui est transformée en cette espèce de temple de la République, baptisé Panthéon, l'endroit où on trouve les dieux. Et qu'est-ce qu'on met dans ce temple ? Des hommes. Et sur le fronton, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Si ça, ce n'est pas une manifestation d'ordre religieux, alors qu'est-ce qu'une manifestation religieuse ? Qu'est-ce qu'une pratique religieuse ? On a là véritablement, à l'état chimiquement pur, une pratique religieuse. Mais laissons tomber les pratiques et venons-en aux croyances. Parce que dans la démocratie religieuse, on n'est plus dans l'ordre de la réflexion. Quand Maurras déclare sa préférence pour le régime monarchique, c'est à la suite d'une réflexion. Notamment, à partir de l'affaire Dreyfus, il se dit il y aurait eu une monarchie, cette affaire-là aurait été mieux traitée que par une république. Donc, pour un certain nombre de raisons, j'adopte le régime, je suis favorable au régime monarchique. Il disait d'ailleurs, la monarchie se démontre comme un théorème. Peut-être avait-il tort, mais du moins, y avait-il chez lui une argumentation intellectuelle. Ce qui est très frappant quand on parle avec les étudiants, on leur dit, vous êtes pour les droits de l'homme ? Oui. Vous êtes antiraciste ? Oui. Vous êtes pour la démocratie ? Oui. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que tout petit, on leur a dit, tu adoreras la démocratie, les droits de l'homme, tu seras antiraciste, etc. Et ils répètent ça comme nos enfants, ou comme nous enfants récitions notre catéchisme, sauf qu'aujourd'hui, c'est le catéchisme du diable. Et donc, ces croyances, comment peut-on les résumer ? Je crois qu'on peut les résumer en trois propositions. qui visent toutes les trois à faire du peuple une sorte de Dieu. Au fond, le peuple a tous les attributs de Dieu. D'abord, c'est le peuple qui confère le pouvoir dans la démocratie religieuse. Tout à l'heure, j'évoquais la démocratie politique. C'est le peuple qui confère le pouvoir, c'est le peuple qui détermine le bien et le mal, et ça c'est une nouveauté, c'est le peuple qui détermine le vrai et le faux. Enfin, le peuple ou ceux qui sont censés parler en son nom. Premier point, le peuple, seule source du pouvoir. Ce que l'Église dit à tous les candidats à la démocratie, c'est, comme le disait le pape Pie XII, vous pouvez être démocrate, mais reconnaissez que le pouvoir vient de Dieu. Et contrairement à ce que soutiennent certains démocrates, ça n'est pas contradictoire. D'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, quand vous prenez l'exemple des États-Unis, vous avez une certaine reconnaissance de la réalité de cette origine divine du pouvoir. Je dis bien une certaine, mais en France, on s'en contenterait, ça serait déjà un progrès considérable. Par exemple, quand le président des États-Unis prête serment sur la Bible, alors un séminariste me faisait remarquer hier, vision protestante, oui, mais il vaut mieux une vision protestante que celle que nous avons chez nous, où le président de la République dit qu'il ne reconnaît aucune autorité au-dessus de l'autorité du peuple. Quand les Américains chantent le « God bless America », ou quand, de manière plus anecdotique, un président vient confesser ses infidélités à la télévision en disant « Priez pour moi », alors on peut dire que tout ceci est hypocrite, mais l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu, et puis somme toute, ça quand même peut-être une vocation pédagogique, d'une certaine façon. J'entendais le candidat républicain, M. Bush Jr., terminer un de ses discours en disant aux congressistes « Dieu vous bénisse ». Alors, pour les Français, je crois qu'en Italie c'est pareil, mais imaginez le président de la République terminant par « Dieu vous bénisse » ou disant « Je vais prêter serment sur la Bible » ou disant « J'ai fait des bêtises avec ma secrétaire, priez pour moi ». On est aux antipodes de tout cela. Donc il y a quand même là, non pas un modèle de démocratie, entendez-moi bien, mais un signe qu'une démocratie peut respecter les principes que l'Église disait. Et c'est d'autant plus important que si ça n'était pas possible, ça voudrait dire que la doctrine de l'Église est totalement irréaliste, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ceci, c'est possible dans une logique démocratique, mais dès lors que la démocratie n'est qu'une forme de gouvernement parmi d'autres. Quand vous êtes dans la logique actuelle, c'est-à-dire dans une démocratie religieuse, ceci devient totalement impossible. Pourquoi ? Le pape Pie X l'avait très bien dénoncé lorsqu'il avait condamné le Sillon. Parce que la démocratie moderne, du moins celle qui triomphe aujourd'hui, que j'ai évoquée à plusieurs reprises, repose sur une certaine conception de la dignité humaine. Je cite « Le Sillon a le noble souci de la dignité humaine, mais cette dignité, il la comprend à la manière de certains philosophes dont l'Église est loin d'avoir à se louer. » Et l'on arrive ici à la confusion fondamentale. Aujourd'hui, l'Église parle des droits de l'homme. Le monde parle des droits de l'homme. S'il s'agit simplement, c'est ce que vous nous disiez hier, de faire une énumération des droits de l'homme, ça n'est pas nouveau. S'il s'agit de reconnaître une certaine dignité à l'homme, et dans un certain sens, j'y reviendrai, ça n'est, semble-t-il, pas scandaleux. Mais le problème, c'est que le discours que l'Église cherche à canoniser est exactement contraire au discours dominant du monde. Et au fond, la différence essentielle repose sur ce point, sur ce mot « autonomie ». Où l'homme est digne parce qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il se donne sa propre loi. Au fond, il fait ce qu'il veut. Où l'homme reconnaît une loi au-dessus de lui. Autrement dit, où l'homme est son propre maître, où l'homme reconnaît qu'il a un maître, dominus en latin, reconnaît qu'il a un seigneur. Et la tragique ambiguïté des textes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on mêle ces deux notions. On utilise parfois l'une, parfois l'autre. Et je voudrais vous donner des exemples pris dans Gaudium et Spes. Voilà ce qui me semble, mais je parle sous le contrôle de gens plus savants que moi, voilà ce qui me semble dans la logique catholique. Gaudium et Spes numéro 16. On parle de la loi naturelle inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir. Ben, ça veut dire que l'homme qui obéit pas, il n'est pas digne. Donc on n'est plus du tout dans cette logique d'une dignité pour tous les hommes, simplement parce que Jésus s'est fait homme et que Jésus est mort pour que ceux qui recevraient le baptême soient sauvés. Le thème est développé dans le point suivant, le point 17. L'homme parvient à cette dignité lorsque se délivrant de toute servitude, de ses passions, etc. Parvient à cette dignité. Gaudium et Spes numéro 42. On parle des droits de l'homme. Et on dit que les droits de l'homme doivent être imprégnés de l'esprit de l'Évangile et garantis contre toute idée de fausse autonomie. Nous sommes en effet exposés à la tentation d'estimer que nos droits personnels ne sont pleinement maintenus que lorsque nous sommes dégagés de toute norme de la loi divine. Et ça, c'est très important, je crois. Mais en suivant cette voie, la dignité humaine, loin d'être sauvée, s'évanouit. Moi, il me paraît que c'est capital, cela, parce que on a tout un discours dans lequel on explique très clairement que la dignité humaine, contrairement à ce qu'on dit par ailleurs et que contrairement à ce que l'immense majorité des gens croient, parce que sans doute on n'est pas assez clair, la dignité humaine, ça n'est pas comme ça quelque chose qu'on trouve dans son berceau simplement parce que notre Seigneur il a bonne idée de se faire homme et la bonne idée de mourir sur la croix. Et ça va avoir des conséquences capitales parce que si on peut perdre cette dignité, si on peut acquérir cette dignité, ça veut dire que les hommes ne sont pas égaux. Il y a ceux qui sont dignes et ceux qui ne sont pas dignes. Il y a les saints, il y a les bandits. Ce n'est pas la même chose. Or, précisément, la démocratie religieuse dont nous parlons repose sur ce postulat que tous les hommes sont essentiellement égaux. Saints ou bandits, c'est pareil. Et cette confusion est entretenue par le fait qu'il y a dans le même texte Gaudium et Spes, des affirmations dont il faut bien dire qu'elles semblent contradictoires. Numéro 26. La conscience de l'éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toute chose, et dont les droits et les devoirs sont universels et inviolables. C'est plus du tout la même chose. Dans le premier cas, on dit que l'homme peut acquérir cette dignité. On dit qu'il peut perdre cette dignité. Et là, on dit la conscience de l'éminente dignité de la personne humaine, de tous les hommes. Application pratique. Le droit à la vie. Le droit à la vie, il est inviolable. Et donc, en toute logique, l'Église, alors même que dans la première version du catéchisme, l'Église reconnaît la légitimité dans certains cas de la peine de mort, on est amené à dire non, on ne peut pas être pour la peine de mort, puisque ces droits sont inviolables. Et en particulier, si un droit est inviolable, c'est bien le droit à la vie, le premier, qui est la condition de tous les autres. Comme disait Maurice Clavel, à juste titre, en parlant des déclarations des droits de l'homme, ce sont les déclarations des droits de l'homme mort. Et il avait raison, parce que quand vous prenez les trois déclarations françaises, 1789, 93 et 95, on ne vous parle pas du droit à la vie. Il n'y est pas. Vous avez le droit de propriété, qui est un droit sacré, 89, et pas le droit à la vie. Mais il faut bien dire face à cela que si l'homme a des droits, le premier de ces droits, c'est le droit à la vie. Et si ce droit est inviolable, et il l'est nécessairement, puisque tous les hommes se valent. Si tous les hommes se valent, on ne voit pas pourquoi on tuerait le bandit. On notera au passage, et j'y reviendrai, que ce droit affirmé comme inviolable à la vie n'empêche pas quantité d'avortements. Et il faudra s'interroger d'ailleurs sur la raison qui explique cela. On trouverait un peu la même idée dans Gaudium et Spes numéro 29. Tous les hommes, doués d'une âme raisonnable et créés à l'image de Dieu, ont même nature et même origine, tous rachetés par le Christ, jouissent d'une même vocation, même destinée divine. Et voilà la suite. On doit donc, et toujours davantage, reconnaître leur égalité fondamentale. Le proxénète du coin est le plus grand saint de l'Église catholique, ils ont une égalité fondamentale. Et vous voyez bien qu'il y a deux discours contradictoires, parce que d'un côté on nous dit que c'est une dignité qu'on peut conquérir ou qu'on peut perdre, mais après, quand il s'agit de faire l'application pratique, on laisse tomber la doctrine orthodoxe, me semble-t-il, et on adopte une doctrine totalement hétérodoxe. Et c'est précisément sur cette conception de la dignité humaine que se fonde la démocratie religieuse. Et ceci a été démontré d'ailleurs en son temps par le pape Léon XIII. Si tous les hommes se valent, aucun homme ne peut exercer le pouvoir sur un autre. Donc le seul pouvoir que les hommes peuvent reconnaître, c'est un pouvoir qui émane d'eux. Et c'est pour essayer de justifier cette hypothèse que Rousseau a fait cette hypothèse encore plus hasardeuse du contrat social. Les hommes des cavernes qui se mettent en rond au fond de leur caverne autour d'un feu en disant « voilà, on va passer un contrat, je renonce à tous mes droits, mais je deviens citoyen avec les droits du citoyen ». C'est absurde. C'est absurde puisque pratiquement jusqu'à Athènes et Rome, on n'avait même pas la notion de ce que pouvait être un État. Mais c'est ce que croit Rousseau. Mais on est, je le répète une fois de plus, dans le domaine de la croyance. On est dans le domaine de la religion. Et d'une religion qui ne s'embarrasse pas d'une nécessité de rationalité. Je passe un peu vite là-dessus parce que je vois que l'heure tourne beaucoup, mais je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que cette démocratie religieuse, au fond, elle repose sur l'idée d'un homme divinisé. C'est un homme qui est plus qu'à l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même, puisque finalement, quoi qu'il fasse, il reste toujours lui-même. Et en tant que tel, il est toujours digne, donc toujours digne de vénération. Deuxième trait qui caractérise cette démocratie religieuse, c'est que le peuple détermine ce qui est bien, ce qui est mal. Et on a là la solution du problème que j'évoquais tout à l'heure de l'avortement. Si le peuple dit que l'avortement c'est bien, ben c'est que c'est bien. S'il dit que c'est mal, c'est que c'est mal. Une comparaison pratique. Une comparaison pratique qui montre qu'on est dans une société, d'ailleurs qui n'est pas une société amorale, mais une société immorale. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de morale dans notre société, il y a une morale très forte. Ce qui m'a d'ailleurs frappé quand je suis allé en prison, non pas comme détenu, mais comme enseignant, ce qui m'a frappé, c'est que la prison est un milieu extrêmement moral. Les détenus vous disent « Ah oui, mais lui, c'est vraiment abject, c'est un violeur. Lui, oh, c'est un proxénète, c'est très mal. » Il y a une hiérarchie qui est d'ordre moral dans la prison. Dans notre société aussi, il y a une hiérarchie, c'est une fausse morale, là encore, mais il y a une hiérarchie. Je vais prendre l'exemple de deux actes humains dont on parle beaucoup, les autres parlent beaucoup du racisme, mais nous on parle beaucoup de l'avortement. Comparons. Le racisme dans un pays comme la France, c'est quelques cas chaque année. Dans l'immense majorité, ça se compte par unité ou par dizaine tout au plus, sur des millions d'infractions. Dans l'immense majorité, il s'agit d'injures, éventuellement de diffamation raciale, c'est-à-dire mettre en cause une personne à raison de ses origines. En gros, c'est ça. Bon. Éventuellement, vous avez aussi le refus de donner à quelqu'un un emploi parce que, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, les Arabes qui ne sont pas acceptés dans les boîtes de nuit ou les Arabes qu'on n'embauche pas à tel moment. Bon. Peut-être aussi parce que le chef d'entreprise, on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il n'avait pas déjà embauché 10 Arabes et qu'après, avec l'expérience, ben, il préférait peut-être pas un Arabe. Bon. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est interdit par la loi. Mais quand on fait la somme de tous les cas, c'est quelques dizaines, quelques centaines, si vous voulez, chaque année. Avec au milieu quelques cas tragiques où il y a des blessures, voire des meurtres. Mais c'est quand même très peu de cas. Sur, je le répète, des millions d'infractions. L'avortement, les chiffres officiels, c'est plus de 200 000. Vraisemblablement, aux alentours de 400 à 500 000 par an, juste pour la France. Pour le monde, on pense que c'est 40 millions par an. En gros, c'est un pays comme l'Italie ou comme la France qui y passe. Et depuis 20 ou 25 ans, 1 milliard d'hommes qui ont été tués. Ça fait un beau génocide, ça, qui n'intéresse pas les médias. Donc déjà, si on regarde, a priori, il semble que, d'un point de vue purement numérique, l'avortement est quand même plus grave. Deuxième élément de comparaison, quand on regarde les conséquences sociales, ben c'est vrai que le racisme peut avoir des conséquences néfastes parce que ça crée des dissensions au sein de la société, pas bien, mais c'est quand même assez limité. Alors que l'avortement crée des problèmes notamment démographiques qui sont catastrophiques et d'ailleurs qui génèrent l'immigration, laquelle génère le racisme. Parce que quand vous avez peu d'immigrés dans un pays, il n'y a pas de phénomène de racisme. Si on regarde ensuite la manière dont l'État se comporte, eh bien, sur le racisme, l'État se comporte d'une manière répressive, féroce. On traque les gens, on regarde ce qu'ils ont dit, mais derrière ce qu'ils ont dit, il y a ce qu'ils pensent. J'ai un de mes amis qui est passé devant le juge parce qu'il était parti sur Internet et qu'il avait seulement exprimé son doute sur l'existence des chambres à gaz. Le procureur de la République requiert 6 mois de prison avec sursis. Comme si d'ailleurs le fait de discuter des chambres à gaz allait brusquement créer des phénomènes de racisme dans le pays. Mais à la limite, quand bien même tout cela serait vrai, mis en regard de l'avortement, ce que l'on constate, c'est que l'avortement est totalement libre aujourd'hui. Et d'ailleurs, dès qu'il y a des problèmes, on fait nous un peu plus laxistes, comme on s'apprête à le faire en France. Et que ceux qui sont poursuivis, c'est ceux qui, comme le docteur Dor, essayent d'entraver la pratique de l'avortement. Mais derrière cela, il y a cette logique, en fin de compte, que c'est le peuple qui décide. Le peuple, en fait, ses représentants. Mais cela dit, on a bien vu dans certains pays, je pense à l'Italie, sauf erreur de ma part, quand on demande au peuple s'il est pour l'avortement, il dit oui. Le peuple a dit oui, ben donc on fait ce que le peuple a décidé. Dernier élément. Aujourd'hui, c'est le peuple qui détermine le vrai. Et on voit bien qu'il a tous les attributs de la divinité. C'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui dit ce qui est bien, c'est lui qui dit ce qui est vrai. Ça, c'est une nouveauté. Parce que dans la logique de la Révolution française, on disait au contraire que, au fond, on ne savait pas tellement qui est-ce qui avait la vérité. Et d'ailleurs, comme le dit l'abbé Lehmann, on le citait à midi, ce qui caractérise la Révolution française, c'est que le Christ, c'est-à-dire la vérité, le Christ quitte la société. Et puisqu'on ne connaît plus la vérité, la conséquence, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il veut, puisqu'au fond, personne ne sait qui a raison. Mais ce qui caractérise la législation de ces dernières décennies en France, c'est qu'on réintroduit le délit d'opinion. Et si on réintroduit le délit d'opinion, c'est parce que le peuple, ceux qui parlent en son nom, détermine de façon infaillible la vérité. C'est la question de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 2 vérités, 6 millions de juifs sont morts, ils sont morts dans des chambres à gaz. Si vous contestez cela, vous êtes passible des tribunaux, avec des peines extraordinairement lourdes. Et à la limite, moi, que le pouvoir soit au service de la vérité, ça me semble une bonne chose. Mais ce qui est inimaginable, c'est qu'un pouvoir dit démocratique, un pouvoir qui repose sur les droits de l'homme, qui affirme en 89, articles 10 et 11, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, que ce pouvoir mette en place une répression du délit d'opinion. Ça semble contradictoire. Ça l'est si on est dans une logique d'une démocratie politique. Mais si vous êtes dans une logique de démocratie religieuse, ça ne l'est plus du tout. Vous êtes dans le cadre d'une religion. Celui qui nie un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de vérités, est un hérétique. S'il est un hérétique, il risque de corrompre le corps social, et donc il importe de le châtier. Voilà le panorama de ce XXe siècle. Et au passage, j'ai évoqué l'attitude de l'Église face à ces questions-là. Et quelle est finalement l'attitude de l'Église actuelle? Je voudrais terminer par une citation un peu longue, mais à mon avis très riche d'enseignements, qui résumera au fond tout mon propos. Cette citation, elle est extraite de l'Évangile de la vie. C'est le point 70. En réalité, la démocratie ne peut être élevée au rang d'un mythe, au point de devenir un substitut à la moralité. Mythe, substitut à la moralité, c'est bien la démocratie religieuse dont il s'agit. Ou d'être la panacée de l'immoralité. Et là, le pape dit très justement, je crois, fondamentalement, la démocratie est un système, démocratie politique, et comme tel, un instrument, et non pas une fin. Son caractère moral n'est pas automatique, mais dépend de la conformité à la loi morale à laquelle la démocratie doit être soumise, comme tout comportement humain. Il dépend donc de la moralité des fins poursuivies et des moyens utilisés. Et un peu plus loin, le pape conclut, la valeur de la démocratie se maintient ou disparaît en fonction des valeurs qu'elle incarne ou promeut. Vous avez là un raisonnement équivalent à celui qu'on avait tout à l'heure sur la dignité de la personne humaine. L'homme soumis à Dieu, il est digne. L'homme qui se révolte contre Dieu, il perd cette dignité. Tout ceci semble du meilleur aloi. Mais le problème, c'est que entre les 2 citations, on lit la phrase que j'indiquais tout à l'heure. Si l'on observe aujourd'hui un consensus presque universel sur la valeur de la démocratie, il faut considérer cela comme un signe des temps positifs, ainsi que le magistère de l'Église l'a plusieurs fois souligné. Je crois qu'on a ici en résumé toute l'attitude de l'Église sur le problème dont on parle. Et c'est au fond le thème de notre colloque. Tirer les enseignements du XXe siècle et puis se poser des questions pour l'avenir. Ben, l'avenir, il est clair. Si l'on veut que les peuples se détournent de la démocratie religieuse, ben, il ne faut pas mettre un peu de démocratie religieuse au milieu de la démocratie religieuse que l'on condamne. On ne peut pas dire en même temps la démocratie est acceptable si c'est un système, mais pas si c'est une religion, et dire ensuite, mais il est très bien que la démocratie se répande partout, ce qui est de manière assez caractéristique, finalement, le propre de la démocratie religieuse, c'est d'être une religion parce que c'est un instrument de salut. Et autrement dit, je répéterai les propos de M. l'abbé Simoulin tout à l'heure, autrement dit, si l'on veut sortir de cette religion qu'est la démocratie, ce qui n'empêche pas les peuples de se doter de structures démocratiques s'ils le souhaitent, eh bien il faut que le discours soit clair. Est, est, non, non, si, si, nodo. J'ai dépassé un peu.